et France 24 présentent
Mardi politique.
C'est l'heure de Mardi politique sur France 24 et RFI. Bonsoir Frédéric Rivière.
Bonsoir.
Nous recevons jusqu'à 19h Jean-François Copé. Bonsoir et merci d'être
bonsoir.
Là. Vous êtes député-maire de Meaux et candidat à la primaire de la droite. Il y a un an, personne ne donnait cher de votre peau. Quasi disparu de la scène médiatique, vous avez été blanchi dans l'affaire Big Malion, alors que Nicolas Sarkozy a été mis en examen. Vous avez remonté la pente, même si vous restez pour l'instant au tréfonds des sondages. Mais vous êtes l'une des révélations des débats de la primaire. Vous êtes à Paris apparu aussi relax que celui qui n'a rien à perdre et beaucoup à gagner en attaquant Sarkozy. Et puis pour la France, certaines références ne vous font pas peur. On vous écoute, c'était lors du deuxième débat des primaires.
Une France décomplexée, c'est une France qui remonte à cheval, comme Zorro. Une France qui est commandée, une France qui est dirigée.
Voilà, donné mort politiquement, c'est un cavalier qui surgit hors de la nuit. Voilà Don Copé de la Vega. Sarkozy peut donc trembler. Vous nous expliquerez pourquoi vous voulez, dans le fond, le désinguer. Nous allons évoquer cette primaire qui, visiblement, vous redonne des couleurs. Mais avant, on va parler de la grande actualité, l'élection américaine qui a lieu cette nuit. Alors, Trump ou Clinton, vous voteriez qui si vous étiez américain ?
Question bien difficile. D'abord parce que je ne suis pas américain.
Bien difficile.
Et que lorsque, oui, bien sûr, parce que quand on voit la manière dont ces campagnes se passent aux États-Unis, elles sont tellement différentes. Dans le contenu des débats, dans les polémiques, que ce que nous vivons chez nous, on a eu, il faut bien le dire, entre Trump et Clinton, un spectacle assez lamentable. Je sais bien qu'on ne peut pas tout comparer, mais enfin, regardez
quand même.
Est-ce
qu'il y en a un qui est pire que l'autre, quand même?
Oui, non, mais bien sûr. Je peux pas. Je ne pourrai jamais voter pour Trump, qui incarne pour moi le populisme absolu, c'est-à-dire l'accumulation d'annonces dans des discours improbables, de choses dont on sait pertinemment qu'elles sont irréalisables. C'est le contraire de ma conception de la politique.
Mais visiblement, ça.
Mais en même temps,
parce qu'il a survécu jusque-là, tout de même.
Oui, il a survécu jusque-là. Vous avez raison. On va attendre quand même de voir le score final. Voilà.
Et il incarne pas un leader politique décomplexé, Donald Trump ?
Non.
Il n'a pas beaucoup de complexes, apparemment.
Non, c'est pas ça, la droite décomplexée.
Oui, on va en parler.
Il incarne une droite populiste, ce n'est pas décomplexé. Une droite décomplexée, c'est pas ça. Une droite décomplexée, ça n'a jamais été dans mon esprit une droite qui raconte n'importe quoi. C'est une droite qui est elle-même, qui assume ce qu'elle est, les valeurs que nous défendons à droite, l'autorité, la liberté dans le travail, l'effort, la famille. Enfin, c'est des valeurs qu'on assume quand on est droite au lieu de s'excuser. Et puis, c'est surtout de ne pas avoir la main qui tremble quand il faut décider. D'où mon idée de gouverner par ordonnance. Mais là, avec Trump, on n'est pas du tout dans ça. Alors, en même temps, il ne faut pas se mentir non plus. Hillary Clinton est une candidate qui a été très contestée aux États-Unis. Elle incarne un certain establishment. Elle n'a pas un bilan exceptionnel, c'est le moins qu'on puisse dire, comme membre majeur de l'équipe Obama. Donc, bon, voilà, on va voir ce que tout cela va donner.
Alors, il y a presque à chaque fois qu'une élection a lieu aux États-Unis, l'Europe et presque le monde entier pour le candidat démocrate, c'était Obama, maintenant c'est Clinton, mais que ça plaise ou non, Donald Trump plaît quand même à pratiquement la moitié des Américains. Est-ce que, selon vous, c'est aussi parce qu'il sait parler à ceux qui se sentent oubliés, déclassés, comme il le faisait hier encore lors de l'un de ses derniers discours de campagne.
Oui.
On va l'écouter.
Vous avez une chance incroyable de mettre fin à ce système corrompu et de rendre la justice à tous les hommes oubliés, à toutes les femmes oubliées, à tous les enfants oubliés. Ne laissez pas passer cette opportunité, mes amis, car ça n'arrivera plus jamais.
C'est quoi ces propos, selon vous ? C'est l'argument un peu classique des populistes, je veux être la voix des sans-voix ?
Oui, bien sûr. Et il l'a fait de manière d'ailleurs très, très efficace. En même temps, c'est assez paradoxal venant de Donald Trump, qui est, alors pour le coup, le produit d'une réussite quand même du système. On ne peut pas dire qu'il incarne le citoyen perdu du Texas qui se sent abandonné. Lui-même a un parcours qui n'est absolument sans rapport avec celui du citoyen qu'il prétend représenter. C'est d'ailleurs souvent ça, les leaders leader populiste, hein, on ne peut pas se mentir sur cela. Mais c'est très efficace dans une période où les pays sont un peu en recherche d'avenir, en quête d'avenir, et c'est le cas aux États-Unis, avec en plus un bilan démocrate qui n'a pas été à la hauteur des attentes. Obama a beaucoup déçu, l'administration Bush elle-même avait produit une erreur historique, je crois, tout le monde maintenant s'accorde à le dire, en allant en Irak. Tout ça a beaucoup créé de doutes dans l'esprit de millions d'Américains, même si la croissance économique reste très tonique.
Hein. Alors, même si le mot populiste est un mot valise, hein, il signifie tout de même le rejet des élites, le repli sur soi. Mais derrière tout cela, et c'est un phénomène assez récent, la peur du déclassement, hein, Frédéric le disait, du remplacement de l'homme blanc, dans le fond, est-ce qu'il n'y a pas tout simplement une forme de racisme inquiétant derrière tout cela ?
Il peut toujours y en avoir, il peut toujours y avoir de la xénophobie, bien sûr,
mais je crois que ça va... Vraiment non,
vous savez, ancré de... ce type de discours, il ne marche que si le public auquel il s'adresse a perdu confiance en lui. Voilà. Et c'est ce qui se passe. Et nous connaissons un phénomène comme celui-là en France. Généralement, c'est lié au fait que les gouvernants n'ont pas les résultats attendus, qu'ils n'ont pas répondu aux attentes que leurs électeurs espéraient d'eux à la fin d'un mandat. Nous connaissons ce phénomène aussi, vous savez.
Oui, mais comment vous expliquez cette demande de leader fort ?
Mais
comment
la demande de leader fort, elle est liée au fait que...
Parce que vous aussi, cette demande,
bien
vous
sûr, mais d'ailleurs, l'extrait que vous avez produit de mon intervention au débat rappelait ça. Je pense, c'est une des choses qui m'a le plus frappé, en tout cas conforté dans mes intuitions à travers toutes les rencontres que j'ai pu faire durant les 18 mois où j'ai été silencieux sur le plan médiatique. C'est des Français qui me disaient partout, d'où qu'ils viennent d'ailleurs, quelles que soient leurs origines, leurs sensibilités, de me dire, mais le pays n'est plus commandé.
Il y a plus de chef. Une attente d'autorité,
en fait.
Il y a une
attente de leadership. Ouais. C'est-à-dire qu'en réalité, les gens, même s'ils ne partagent pas la vie de leur président de la République, ne veulent plus de cette espèce de co-gestion avec la CGT, avec une certaine gauche bien pensante, avec l'éditorialiste qui plaît bien dans les cercles parisiens. Et quelque part, dans un autre registre, Trump a beaucoup joué là-dessus en accusant Hillary Clinton d'être d'une certaine manière le produit de cet establishment et faisant oublier que lui-même était aussi le résultat de ce parcours.
Alors si Trump, mettons, hein, demain matin, si c'est Trump qui gagne, les professionnels de la finance disent que mercredi matin tous les marchés s'écroulent. Est-ce que, si c'est cette option-là qui arrive, est-ce que ça n'obligera pas la droite à revoir son programme, notamment avec un programme de relance, puisqu'on voit les deux candidats, d'ailleurs, américains, font un très gros programme de relance. Est-ce que tout ça ne va pas rejaillir sur la France ?
Ça aura évidemment des conséquences, c'est évident, mais je crois qu'il faut attendre un peu, parce qu'il y a the day after, mais il y a aussi le jour après, le jour d'après. C'est-à-dire qu'une fois passé le choc, vous allez voir que, comme toujours dans ces cas-là, les bêta-bloquants vont se mettre en place. Tout dépendra de la majorité au Congrès, de son ampleur, du comportement des républicains. D'ailleurs, c'est vrai aussi bien vis-à-vis de Donald Trump que vis-à-vis
de Hillary Clinton. Chez nous.
Non, mais chez nous, vous savez, il faut bien voir que nous avons nos propres nécessités. Notre premier sujet, nous Français, c'est de faire les réformes de structure pour déverrouiller le pays. Pourquoi est-ce que je parle de gouverner par ordonnance ? C'est parce qu'on ne peut pas continuer d'utiliser la vieille procédure classique de la loi qui dure 18 mois. Parce que ça permet à la CGT, à Sud, aux gauchistes de bloquer le pays. Donc il faut prendre ces adversaires-là de vitesse, parce qu'ils incarnent le conservatisme, d'où l'intérêt de gouverner comme je le propose par ordonnance, de faire en juillet-août, grâce à la procédure des ordonnances, on peut passer tout de suite les 15 décisions pour lesquelles j'aurais été élu si j'emporte la primaire et la présidentielle.
Est-ce que vous pensez qu'il serait difficile de travailler avec un président comme Donald Trump pour les dirigeants européens et par exemple pour le futur président français ?
C'est-à-dire tout dépend si...
Ou est-ce qu'il ne serait plus du tout le même que le
J'allais
Trump
vous dire,
candidat ?
Monsieur Rivière, ben voilà, vous avez répondu à la question. C'est en cela d'ailleurs que je parle de populisme. Qu'est-ce que c'est le populisme ? C'est cette idée qu'on se fait élire sur tout et n'importe quoi et que dès le lendemain... on passe à la trappe tout ce pour quoi on a été élu, on fait l'inverse. Surtout quand on sait pertinemment que ce qu'on a promis était
parfaitement
non crédible.
C'est un vote de déraison.
Bien entendu. Bah, écoutez, comment voulez-vous penser une seconde que Donald Trump peut appliquer le programme qu'il a proposé lorsqu'il veut mettre expulser des millions de musulmans des États-Unis, quand il veut fermer la totalité des frontières, supprimer la totalité des traités de commerce internationaux. Enfin, tout ça n'a aucun sens, tout le monde le sait.
Prenons l'option Clinton, donc une présidente qui sera sans doute plus interventionniste sur le terrain extérieur que ne l'a été Obama. Tout cela est de nature à vous enchanter ou à vous dire il faut, par exemple, on voit qu'en ce moment, là, bien sûr, la coalition est à Mossoul. Est-ce que les États-Unis devront intervenir un peu plus, et notamment en Syrie ?
On a en réalité, sur cette question, on a trois enjeux. On a l'enjeu irakien, l'enjeu syrien, et plus globalement, comment est-ce qu'on termine de mener cette bataille contre le terrorisme international, aujourd'hui incarné principalement par l'État islamique, mais enfin dont on voit bien aussi qu'il y a d'autres organisations djihadistes. Bon, en réalité, prenons-les dans l'ordre. Mossoul d'abord. Bon, le sujet, on a réussi cela, c'est d'avoir une coalition en appui des forces irakiennes, car il appartient ensuite aux Irakiens d'organiser le pays en le faisant de manière, j'espère,
pas une mince
plus
affaire.
Ouverte, ouais. Plus pragmatique que la dernière fois où al-Maliki, comme vous le savez, leader chiite, n'a eu qu'une idée en tête, c'était de régler son compte aux sunnites. Là, j'espère que chacun a tiré...
Ce qui a provoqué Daesh, d'ailleurs.
Ce qui a provoqué Daesh, vous avez tout à fait raison. Ensuite, il y a la question syrienne. Moi, j'entends le discours qui est sur le thème, il faut... pas faire de cadeau à Assad, bah oui, on est bien d'accord que personne ne peut avoir de sympathie ni d'affect pour ce personnage qui a commis les atrocités que chacun sait en Syrie. Mais je mets en garde sur le fait qu'il faut, et ça c'est la politique diplomatique que je préconise et que je mettrai en œuvre si je suis élu, c'est de ne pas oublier que la diplomatie française doit être réécrite, elle n'est pas à l'aune de la politique américaine, et en particulier...
Donc indépendant au gaullisme, quoi.
Non, mais au-delà des mots, oui. Vous savez, très souvent, la diplomatie française, c'est les valeurs. Très bien. Je veux que ce soit aussi les intérêts, nos intérêts. Et moi, je ne prendrai aucune décision qui ne soit d'abord aux intérêts au service des intérêts français.
La France est trop atlantiste depuis ces dernières années.
Je pense qu'elle est surtout illisible et donc vulnérable. Parce que, en réalité, au gré des vagues, elle a eu tendance à s'aligner une fois sur les États-Unis, à aller au-delà de ce que proposaient les États-Unis, de telle manière qu'aujourd'hui, la voix de la France n'est plus entendue parce qu'on est fâché avec tout le monde. Mais, alors que la France, elle est forte quand elle parle à tout le monde.
Mais alors, concrètement, pour combattre aujourd'hui l'État islamique dans ses fiefs de Syrie et d'Irak, est-ce que la France est à la hauteur de la situation ?
Écoutez, elle l'est en participant à la coalition.
Oui, et c'est déjà. Est-ce qu'elle y participe suffisamment ?
Oui,
qu'elle devrait faire
oui.
Plus.
Écoutez, je voudrais quand même rappeler que la France aujourd'hui, sa contribution majeure, elle est au Mali, au Tchad et au Niger. Je le dis d'autant plus que j'étais il y a encore quelques jours aux côtés des soldats français qui se battent de manière extraordinairement professionnelle et courageuse sur le terrain. Sur la bande sahélo-saharienne, dont je rappelle que la distance est entre Paris et Bucarest. Bon, et heureusement qu'il y a eu l'opération Barkhane qui a succédé à l'opération Serval et que les Français sont présents. Je rappelle que ça a pour cause l'intervention en Libye en 2011 qui a été une erreur absolument historique.
Alors justement, la semaine dernière, vous avez effectivement pendant le débat attaqué Nicolas Sarkozy sur beaucoup de sujets et bien évidemment sur la Libye qualifiée d'aventure guerrière. Pourtant, après la chute de Kadhafi en 2011, Nicolas Sarkozy va, vous en souvenez, à Benghazi avec Cameron, le Premier ministre britannique, et vous déclarez ceci à l'AFP. J'ai ressenti une très grande fierté d'être français. L'accueil que le peuple libyen a accordé au président, c'était un moment absolument exceptionnel, c'était un bel hommage à notre pays et à l'action d'un président.
Bien sûr, mais
donc la vérité d'un moment n'est plus celle d'aujourd'hui.
Oui, et puis surtout,
vous applaudissiez à l'époque.
Allons jusqu'au bout du raisonnement. Moi, j'étais à l'époque, je n'étais pas membre du gouvernement, comme vous le savez, et j'ai apprécié la situation en fonction des éléments qui m'était donné par le président de la République de l'époque. C'est toute la différence qu'il convient. C'est toute la différence qu'il convient de faire entre celui qui est le chef et ceux qui l'accompagnent. Moi, quand je parle du commandement Vous vous souvenez peut-être que dans le débat, ça n'est pas par hasard. J'ai évoqué l'idée que le rôle du chef, c'est celui qui décide, mais c'est aussi celui qui assume.
Ce que vous voulez dire, c'est que vous n'aviez peut-être pas toutes les informations
mais
à ce moment-là.
Bien entendu.
Dans ce cas-là, vous n'avez peut-être commis une imprudence en faisant cette déclaration.
Bon, enfin, écoutez.
Non, mais moi, enfin, mais dans la enthousiasmant
sans doute. Mais monsieur Rivière, dans la famille des imprudents, je pense que je suis très largement distancé. Parce qu'en réalité, celui qui était à la manœuvre, c'était le président de la République, qui, avec David Cameron, premier ministre britannique, se sont engagés dans une aventure en connaissance de cause. Moi, je ne me suis engagé dans rien d'autre que de soutenir le président de la République et le Premier ministre François Fillon. Je ne veux pas qu'on oublie parce qu'ils étaient en tandem quand même. Mais surtout, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le résultat de tout cela, premièrement, c'est une frontière entière dédiée au passage des migrants en Europe. C'est une déstabilisation de la bande sahélo-saharienne. C'est une rupture lourde de la confiance avec les Russes, car c'est de là que vient la rupture avec les Russes. Car en réalité, on l'a compris après. Le mandat, la France est allée bien au-delà du mandat. Et ça, c'était pas dans la feuille de route. Donc tous ces éléments, vu du point de vue de celui qui aujourd'hui est candidat à la primaire et vient dire à celui qui a été battu en 2012, voilà, il y a eu des erreurs commises. Et ces erreurs commises aujourd'hui, on doit en tirer les conséquences pour l'avenir.
Jean-François Copé, il y a un autre sujet sur la Libye. Selon Le Monde et Mediapart, il y a eu trois enquêtes qui sont sorties trois jours successifs. Kadhafi aurait financé la campagne de 2007 de Nicolas Sarkozy, mais il n'existe pour l'instant aucune preuve. Vous êtes cité dans un papier du Monde. Vous avez répondu aux deux journalistes, Gérard Davet et L'Homme. Et vous dites, le 29 septembre, c'est plausible qu'il y ait eu ces financements.
Non, c'est pas tout à fait.
Alors,
c'est
je peux reprendre la phrase, mais elle est assez longue.
Non, c'est pas tout à fait en ces termes. Non, c'est pas du tout en ces termes que je me suis exprimé. Dites... Mais ce que j'ai dit, Rosine Sèvres, non, c'est pas tout à fait ça. Moi, ce qui m'a... Oui, je vous en prie, reprenez mes termes.
Eh bien, écoutez, vous dites, moi, parmi les éléments qu'on me donnait toujours, lorsque j'étais à la tête de l'UMP, c'est qu'en gros, les dépenses étaient comparables en 2007 et en 2012. Or, Sarkozy dit... je ne comprends pas, ma campagne de 2012 ne peut pas avoir coûté plus cher qu'en 2007, mais elle a coûté plus cher à l'UMP. Donc c'est quoi le financement? Alors, posez-vous la question. Sarkozy se fragilise en voulant mentir. Son ex-bras droit, Jérôme Lavrieux, résume ce qui fait office d'agent libyen en 2012. Mais vous dites, en clair, les deux hommes postulent que les deux campagnes ayant explosé les plafonds autorisés, le trop-plein de dépenses aurait été couvert au moyen de fausses factures en 2012 et de valises de billets provenant, par exemple, du régime de Kadhafi.
Ça, c'est voilà pas moi qui l'écris. Attention.
Non, pour ça que vous êtes cité en 2012.
C'est pas la même chose. Comme vous êtes journaliste, vous êtes précise. Bon, donc vous avez bien voulu lire ce qui relève de mes propos, de ce
voilà,
qui relève ensuite
précis.
Du commentaire de vos confrères. Donc ce qui relève de mes propos,
on
c'est
on
pas
comprend
tout à fait
ce que vous dites.
Oui, enfin, alors, mais si on vous pose la question aujourd'hui,
alors je vais vous répondre aujourd'hui.
Est-ce que c'est plausible?
En réalité, je vais vous répondre aujourd'hui. Moi, je ne suis pas du tout dans l'enquête et je n'ai absolument aucun autre élément d'appréciation que ce que je lis. Comme vous.
Vous n'aviez rien à voir avec la campagne à l'époque.
Ah oui, rien du tout. Non, mais je n'étais pas là-dedans. Simplement, ce que je veux juste vous dire, quel est le point que j'ai développé, qui était d'ailleurs un peu extrapolé dans la formulation, mais peu importe. C'est la notion de vulnérabilité. C'est-à-dire que, qu'on le veuille ou non, Nicolas Sarkozy se trouve dans une logique de vulnérabilité par rapport à cette affaire, mais aussi par rapport aux autres dans lesquels il est mis en cause.
Oui.
Lorsque j'ai dit publiquement que si j'avais été mis en examen dans l'affaire de ses comptes de campagne de 2012, je n'aurais pas été candidat. C'est parce que je considère qu'en réalité, même si on est présumé innocent, la mise en examen suppose que vous pouvez être renvoyé devant un tribunal. Et donc, vous rendez vulnérable dans votre candidature.
Non, mais c'est dans ce que vous dites dans cette phrase-là. Vous dites qu'en 2012, il y a eu des dépassements et ça a été bidouillé par l'affaire Big Malion. En 2007, la même somme a été dépensée.
C'est pas moi qui le dis ça. Ça, c'était ce qu'avait déclaré Nicolas Sarkozy. Moi, j'ai simplement rebondi sur sa formule.
Voilà,
c'est tout. Ah, mais non, mais moi, j'ai simplement. Mais après.
Donc, si ça a coûté aussi cher, mais qu'il n'y a eu aucun bidouillage, l'argent, il vient d'où?
C'est juste, il y a une petite différence. Devant vous, vous n'avez pas un magistrat qui instruit le dossier.
Non.
Donc moi, par définition, je n'ai fait que rebondir sur la remarque qu'avait faite Nicolas Sarkozy lui-même. Je ne peux rien dire d'autre.
Mais vous dites, est-ce que vous dites que c'est plausible aujourd'hui, cette affaire de financement?
Je suis comme tout le monde, je lis ce que vous avez évoqué, je lis les articles qui sortent ici ou là, et j'attends, comme tout le monde, que les magistrats avancent dans leur enquête. Je ne suis absolument pas en situation de vous en dire plus. Le seul point que j'ai évoqué, c'est la vulnérabilité d'un candidat par rapport à des adversaires qui, comme François Hollande ou Marine Le Pen, pourraient être en situation d'utiliser tous ces arguments contre Nicolas Sarkozy. C'était lui qui gagnait la primaire.
C'est ce qui explique aujourd'hui, d'après vous, une partie de ses difficultés à Nicolas Sarkozy dans sa campagne
pour bien sûr, vous voyez bien que, je ne sais pas combien, 20-30% selon les jours, des questions qui lui sont posées portent sur ses affaires. Et qu'à chaque fois, il est obligé de faire des contorsions, de dire que non, que oui, enfin bon, et puis il change de version, parce que forcément, c'est assez difficile pour lui de répondre à tout cela.
Parce qu'il y a des proches aussi de Nicolas Sarkozy qui auraient aussi touché de l'argent en liquide, Boris Boyon et Claude Guéant. Ça, vous n'étiez pas au courant?
Non, ça par définition, non ça je vous confirme que j'étais pas là. Non, ça j'étais pas au courant.
Bon, c'est la fin de cette première partie de Mardi Politique. Je vous rappelle que vous pouvez réagir sur Twitter avec le hashtag MardiPol. On se retrouve dans 5 minutes après un tour d'horizon de l'actualité. À tout de suite.
Et France 24 présente
Mardi Politique.
Retour dans Mardi Politique et avec notre invité Jean-François Copé. On a parlé donc de la politique étrangère, de la Libye, de l'affaire Kadhafi qui colle au basque de Nicolas Sarkozy. On va parler de politique française. On a appris ce matin qu'Emmanuel Macron officialisera sa candidature autour du 10 décembre. Alors bien sûr, ça n'étonne personne, j'imagine pas vous. Mais est-ce qu'au moins vous pourriez dire aujourd'hui que vous vous réjouissez d'un nouveau venu dans la classe politique? Quand on entend les politiques, souvent ils disent... faut du renouveau, faut renouveler la classe politique. Est-ce que vous réjouissez de cela aujourd'hui?
C'est un peu la tarte à la crème, l'histoire du renouveau. C'est sympathique.
Vous dites ça pour Bruno Le Maire?
Non, mais c'est sympathique. Mais ce que je veux dire, c'est que...
c'est sympathique, c'est nécessaire aussi, peut-être.
Quand je regarde faire Emmanuel Macron, je pense qu'il est encore à un moment de sa vie où il doit considérer que la politique, c'est facile. Il faut faire quelques jolies réunions.
Parce qu'il n'a pas connu les élections,
ou deux bonnes petites émissions, deux, trois jolies photos people dans Paris Match en maillot de bain.
C'est plus fastoche.
Et il se dit, après, tranquille. Voilà. La vérité, c'est que moi, ayant quelques années de plus que lui, quand même un petit peu, je suis quand même obligé de vous dire et de lui dire par médias interposés qu'il verra peut-être à l'épreuve du temps que le suffrage universel, le fait d'être véritablement élu, pas par les médias, pas par les sondages, par les gens, ceux qui votent vraiment, le fait par exemple de faire des réunions d'appartements dans des tours, comme je peux le faire régulièrement à Meaux, de voir les gens dans la réalité des épreuves qu'ils ont à traverser,
vous
parmi
le
les idées
pas,
en place.
Vous le caricaturez pas un peu?
Non, je pense que c'est...
C'est pas un peu si, vieille
si
politique,
je peux, ça? Si je peux me permettre, c'est plutôt dans votre métier qu'on le caricature beaucoup.
Mais
en imaginant qu'il
dans
suffit simplement d'arriver frais et printanier pour incarner la nouveauté. C'est plus compliqué que ça.
Il n'y a rien d'original dans sa démarche, envoyer ce qu'il appelle ses marcheurs à l'état de port pour
faire... Ça, mais arrêtons ces blagues.
Faire le diagnostic de la France qui va... Ce qui va pas,
mais
et
arrêtez,
comment ensuite...
C'est des vieux machins. Écoutez, les marcheurs, c'est du porte-à-porte, on en fait tous depuis des années.
Vous avez vos marcheurs, vous aussi?
Vous croyez qu'on fait de la politique comment? En regardant juste le ciel avec les étoiles passées, quand il nous dit, mais je vais faire un questionnaire pour sonder les gens. Waouh, un questionnaire, c'est idiot, on n'avait pas pensé au questionnaire. Et après, on attend des vérités importantes, et là, il met un grand silence, et il nous dit, vous savez, attention, la pluie, ça mouille. Waouh, on n'y avait pas pensé, dis donc.
Non, mais cette démocratie participative qui avait été incarnée assez intelligemment, il faut le dire, par Ségolène Royal. On voit qu'il y a un désir de... comme désir d'avenir, comme disait Ségolène Royal. On a vu, alors avec un succès ou non, l'idée de la Big Society en Grande-Bretagne, bon, qui n'a pas donné toutes ses promesses, mais est-ce qu'il n'y a pas une demande quand même du citoyen de participer à la vie politique?
Mais j'ai jamais...
Est-ce que vous faites ça dans votre temps?
Mais bien sûr, mais qui vous dit le contraire? Bien sûr qu'il faut, ouvrir les vannes pour permettre aux Français de participer le plus possible. Mais pour moi, plutôt que de participer simplement à la réflexion, je voudrais qu'ils participent à l'action. Quelle est l'idée que je mets en exergue avec les ordonnances? C'est de dire ce qui compte, c'est que le chef de l'État prenne des décisions immédiatement et sur la base d'un programme pour lequel il a été élu par les Français, et qu'ensuite ce soit les Français qui soient associés à la mise en œuvre. Je vous donne un exemple très concret. Je préconise le référendum d'entreprise. C'est-à-dire que dans toutes les entreprises qui le souhaitent, les salariés soient invités à voter sur le projet que propose la direction de l'entreprise, sur le temps de travail, les rémunérations, l'intéressement au capital, enfin tout ce qui fait la vie de l'entreprise. Et que ce soit les salariés qui votent pour le projet sans l'intermédiation des syndicats. Bon, si ça, c'est pas de la participation, ben, je sais pas où on est. Ouais. Et autant, je pense absurde, ce prurite référendaire que veut Nicolas Sarkozy, Fillon et Le Maire, de vouloir mettre des référendums à tous les étages, parce que personne ne peut comprendre, quand on est élu au mois de mai président de la République, de faire revoter les gens un mois après, autant, je pense que le référendum dans l'entreprise, qui est un lieu où il n'y a pas beaucoup de démocratie, ça, pour le coup, c'est une manière de faire participer les salariés aux entreprises.
Alors, on va rester sur la droite, mais une petite question quand même, avec une drôle d'initiative. Le groupe Les Républicains, à l'Assemblée nationale, a annoncé ce matin qu'il soutiendrait et actionnerait une procédure de destitution du chef de l'État pour avoir révélé, dans le livre de Davet et l'Homme, des secrets d'État. D'abord, Edune, est-ce que vous approuvez cette initiative? Et puis, est-ce que vous n'avez pas autre chose à faire? Franchement.
Ah, écoutez, oui, je l'approuve, d'abord parce que je pense que nous sommes dans une période où j'imagine que beaucoup de Français ont été quand même très troublés de voir que leur président pouvait faire de
telles révélations. Enfin, on dit la droite, elle a peut-être autre chose à faire à ce mois de la présidentielle.
Attendez, et en l'occurrence, oui, vous avez bien compris, on a beaucoup de choses à faire puisqu'on prépare l'alternance. En même temps, c'est pas complètement anormal que l'opposition engage ce type de procédure. Je signale d'ailleurs au passage que si c'était la gauche qui était dans l'opposition, elle le ferait avec un zèle absolu. Bon, donc c'est compliqué de laisser cela totalement impuni. C'est quand même très grave.
C'est une démarche plus symbolique que politique.
On verra. On verra quel sera son aboutissement. On verra bien. Enfin, écoutez, il appartient au bureau de l'Assemblée nationale. Bah, d'abord, il faut que le bureau de l'Assemblée nationale en acte la recevabilité.
Et, il faut 10% des députés, 57, normalement,
c'est faisable. D'abord, il faut la décision du bureau pour que soit actée la recevabilité de la requête, puis vient ensuite l'avis de la commission des lois, puis ensuite le vote...
aux deux tiers. Donc, pour le coup, il n'y a aucune chance.
Écoutez, en tout cas, je pense qu'il est bien de placer la majorité devant ses responsabilités dans cette affaire.
La gauche rétorquait donc dans la foulée qu'un ancien président, Nicolas Sarkozy, s'abaissait en déclarant ceci, on écoute, c'était hier soir en meeting à Neuilly.
Et si dans sa famille, on ne mange pas de porc? Eh bien, le jour où à la cantine, il y a des frites et une tranche de jambon, eh bien, le petit prend pas de tranche de jambon et prendra une double ration de frites. C'est la République. La même règle et le même menu pour tout le monde.
Bon, et d'un, ça vole pas haut. De deux, est-ce que vous êtes d'accord avec la double ration de frites? J'ai un peu honte de vous poser la question, parce que franchement, le niveau est... Mais bon, il l'a dit, donc voilà.
Ben moi je suis consterné par ça, hein, parce que en vérité j'ai une approche qui est très très différente de tout cela. Il s'agit là des menus dans les cantines, hein. Et Dieu sait si vous avez sur votre plateau aujourd'hui quelqu'un qui est très engagé sur
les questions
contre le communautarisme islamiste. J'ai porté la loi d'interdiction de la burqa. Sarkozy n'en voulait pas à l'époque, Fillon non plus d'ailleurs. Il a beau le nier, c'est la vérité. J'ai été très 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 engagé. Je suis très engagé dans l'adoption d'un code de la laïcité pour le statut des imams, pour l'interdiction du voile dans les établissements publics, etc. Bon. Vous ayant dit tout cela, moi, je suis obligé de vous dire que sur cette question, les menus dans les cantines, c'est pas le même sujet. Je veux ici mettre dans le débat mon expérience de maire de Meaux. Je suis quand même obligé de vous dire que dans la vie quotidienne, pour des milliers d'enfants, notamment dans les quartiers sensibles de notre pays, le menu de la cantine, c'est parfois le seul menu équilibré de la journée. Parce qu'il y a, il faut bien l'admettre, un certain nombre de milieux familiaux, de familles dans lesquelles c'est pas toujours évident de s'en sortir. Ou parfois même des parents qui sont assez déresponsabilisés par rapport à tout cela. Alors, moi j'ai toujours maintenu, je le dis à mots, la possibilité d'avoir deux menus, ne serait-ce que parce qu'il y a des régimes alimentaires. Deuxièmement, parce que si des enfants mangent pas de porc, ce qui est quand même leur droit, et pas, ça veut pas dire pour autant qu'ils vont devenir djihadistes. Et ben s'il y a que du porc, ils mangeront rien.
Pas de ration de plus de frites.
Ils mangeront rien.
Bon, et donc quelque part, frites, dit je ne veux pas à l'école d'une table de musulmans, d'une table de juifs, d'une table de catholiques.
Mais ça n'a jamais existé.
Jean-François Copé. En même temps, vous savez très bien que c'est une question qui ressurgit sans arrêt. Ça, comme l'abattage rituel, comme la question des horaires dans les piscines, ce sont des sujets. Qu'est-ce que ça nous dit quand même sur l'état de notre société?
Non, mais justement, moi, Monsieur Rivière, là-dessus, je veux qu'on soit très clair autour
de cette
table.
C'est pas la même chose.
Je sors.
Parce qu'il y a un sujet diététique et un sujet religieux.
Non, c'est pas un problème. J'aime pas le mot diététique. C'est le seul, parfois le seul repas complet de milliers d'enfants dans notre pays.
C'est la diététique, ça.
ouais, enfin, si vous voulez. C'est de l'équilibre alimentaire.
Oui,
voilà.
Oui, oui.
Bon, oui, mais c'est un sujet énorme.
Non, mais il n'y avait pas de...
Il s'agit des enfants. Mmh. Bon, les piscines, il faut être intraitable. Quand Mme Aubry a voulu faire des horaires spécifiques pour les femmes dans les piscines, j'ai été le premier à dire que c'était insupportable et intolérable. Bon, alors, on est même venu à nous expliquer que c'était juste parce que c'était par rapport aux femmes qui avaient des
mais certains vous répondront que c'est la seule occasion pour certaines femmes d'aller se baigner. Et que sinon, elles ne le peuvent pas.
Eh ben, je suis désolé. Là, pour le coup, ouais. Là, on est dans autre chose. Parce que là, il s'agit d'adultes. Et deuxièmement, c'est contraire aux lois de la République. La mixité en France n'est pas négociable. Je répondais tout à l'heure à votre consoeur sur la question de la parité. Ça n'est pas pour qu'on fasse un grand recul sur cette question au motif qu'une communauté, que quelques personnes viendraient influencer une communauté religieuse avec des comportements islamistes radicaux qui visent en réalité à aller au-dessus des lois de la République. C'est là où je fais cette différence. Je ne fais cette différence que parce que le sujet choisi par Nicolas Sarkozy est le plus mauvais des sujets. On ne touche pas au repas dans les cantines. Alors, après, pour le reste, moi, je suis le premier depuis longtemps à dire qu'il faut être intraitable vis-à-vis des influences de l'islamisme radical.
C'est l'un des points forts de votre campagne. Et vous voulez, si vous étiez au pouvoir, créer un code de la laïcité qui prévoirait notamment d'interdire, je vous cite, à l'ensemble des agents, mais aussi aux usagers, le port de tenue ou signe manifestant ostensiblement une appartenance religieuse dans un établissement public. Qu'est-ce qui changerait concrètement par rapport au texte qui existe ?
C'est qu'aujourd'hui, les agents publics n'ont pas le droit de porter de signes qui soient visibles,
mais c'est quoi,
religieux ?
Donc là, c'est les usagers, c'est le fait que ça s'appliquerait aux usagers.
Et là, ça s'appliquerait aux usagers.
Mais alors, qu'est-ce que vous mettez dans ces signes ostensibles ?
Écoutez, on va pas se faire de langue de bois. C'est essentiellement la question. C'est essentiellement la question du voile.
Bien sûr. Lequel ? C'est ça.
C'est le voile.
Mais y compris le foulard
bien sûr.
Qui ne couvre pas toute la tête.
Bien sûr.
Donc une femme qui va à l'hôpital, qui a son foulard, elle n'aurait plus le droit
devrait l'enlever. Il faudrait savoir ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'en réalité, elle va bénéficier de la solidarité nationale, donc du résultat de l'argent des contribuables, pour pouvoir se faire soigner gratuitement. Il y a assez peu de pays dans le monde qui permettent ça. Bon, donc je pense qu'il peut y avoir, de sa part, peut-être un comportement plus ouvert par rapport aux lois de la République. Et que ceux qui font la loi de la République, ils doivent rappeler qu'on ne peut pas laisser faire l'islamisme radical, parce que derrière tout cela, ce que j'observe, je ne l'aurais pas dit il y a quelques années, mais je le vois à mots, c'est que nous voyons des jeunes filles qui, en grandissant, du jour au lendemain, mettent des voiles, alors qu'on les voyait en tenue de sport quelques mois avant. Et derrière
parce
cela...
Parce qu'elles le veulent ou parce que, d'après vous, elles sont... On les oblige
Les deux. Malheureusement, derrière cela, il y a un processus d'enfermement, et le rôle de la République, il est de protéger les femmes de cette emprise.
On comprend bien de quoi vous parlez, mais dans les années 50 et 60 en France, par exemple, les femmes portaient assez souvent un fichu sur la tête.
Oui.
Supposons que cette mode vestimentaire réapparaisse. Qu'est-ce vous faites avec cette femme qui se présente à l'hôpital avec un joli petit foulard coloré
Vous savez quoi, monsieur Rivière, je propose que si cette mode devait arriver, nous en reparlions. Mais pour l'instant, ce que je vois, c'est que c'est une tendance nouvelle qui vise à provoquer la vie, la République et, je dirais, le vivre ensemble. Ne faisons pas semblant de ne pas voir. Vous savez, j'ai été, vous vous en souvenez, l'objet de polémiques débiles lorsque, il y a quelques années, j'avais raconté l'histoire de ces voyous qui avaient arraché un pain au chocolat à un collégien en lui disant « Tu manges pas pendant le ramadan ». Bon, à l'époque, j'ai pensé, en racontant cette histoire qui était arrivée à Meaux, qu'on allait débattre des raisons qui peuvent expliquer le délitement de la société. Pas du tout. On a interdit le débat, d'un copé est islamophobe. Bon, je maintiens que ces sujets, aujourd'hui, nous sautent au visage, parce qu'ils sont du quotidien. La jeune serveuse niçoise qui s'est fait molester par un voyou qui lui a dit « Tu n'as pas à servir d'alcool pendant le ramadan », ça en dit beaucoup plus long que toutes les théories que l'on peut lire sur tel ou tel sujet. Le débat que j'ai eu il y a quelques semaines avec le responsable d'une association réputée lutter contre l'islamophobie à Sciences Po et qui tenait des propos hallucinants, en ne condamnant pas, par exemple, la polygamie, en dit long sur la permissivité de nos débats. Et c'est ça que je veux combattre. Vous savez, je parle beaucoup avec les Français qui sont établis à l'étranger, et notamment dans des pays où le problème existe.
Là, ils vous écoutent.
Bon, bien sûr. Très souvent, ils m'envoient des messages de soutien en me disant « Écoutez, vous êtes le seul à tenir la ligne ». Parce que c'est bien vrai qu'il y a de la complaisance quand même dans la classe politique française, à gauche comme à droite.
Donc Nicolas Sarkozy, la droite décomplexée, c'est pas...
Mais lui, il dit pas ça. Non, mais le problème de Nicolas Sarkozy,
il est...
Ah ben ça, sur le burkini, il a raison. Moi, j'ai la même position. Mais le problème, c'est que Nicolas Sarkozy...
Vous êtes pas très loin idéologiquement.
Ça dépend des sujets. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je serais ravi d'être beaucoup plus en phase avec ce qu'il raconte. Le vrai problème, c'est qu'il n'est pas dans la droite décomplexée. Il est dans une droite qui, bien souvent, est une droite populiste. C'est-à-dire qu'il vient promettre des choses dont il sait pertinemment qu'elles ne sont pas faisables.
Par exemple,
il nous annonce 4 référendums pour le deuxième tour des législatives. Dans ces 4 référendums, il y en a 2 qui ne sont juste pas constitutionnels.
Oui, parce qu'ils sont entre les deux tours des législatives, c'est ça?
Non, pas du tout. Mais quand il nous dit « je propose un référendum pour suspendre le regroupement familial », alors là, il est sûr d'être applaudi. Le problème, c'est que c'est impossible. On peut restreindre les conditions, on n'a pas le droit de le suspendre. C'est interdit par toutes les conventions internationales.
Comment vous l'expliquez, il ne travaille pas?
Ah, c'est pas qu'il travaille pas, c'est qu'il est, il est dans cette même démarche de dire ce qui compte, c'est que je
c'est
sois
Trump,
élu.
Alors.
Comme
après,
Donald Trump.
Bon,
comme Donald
de la même manière, quand il dit je veux de la rétention, faire une rétention administrative des fichiers S sans contrôle du juge, c'est interdit. C'est interdit par tous les textes. Donc il sait pertinemment que ça n'est pas applicable. Et moi, c'est ça que je reproche, parce que je considère que derrière ça, il y a, une nouvelle fois, mentir aux Français, à un moment où, au contraire, il faut leur dire la vérité sur ce qu'on peut faire, et Dieu sait si on peut faire beaucoup de choses.
Mais qu'est-ce qui s'est passé, Jean-François Copé, pour que vous disiez autant de choses dures sur Nicolas Sarkozy, alors que vous en avez dit tant de bien à une époque pas si lointaine? En 2011, vous disiez, le président a fait la démonstration d'une aptitude exceptionnelle à gérer les crises. Et en 2012, dans l'entre-deux-tours au meeting de la Mutualité, vous disiez « Seul Nicolas Sarkozy peut sauver la France, il est le seul à porter le destin de la France ».
Monsieur Rivière, je vous rappelle juste une petite chose. En 2011-2012, on était en risque. On était en risque de perdre l'élection et de voir la gauche gagner. C'était le moment où tous ceux-là qui lui font la cour, qui sont devenus les Sarkozystes du moment, l'avaient lâché. Tous. Monsieur Fillon, qui pourtant, alors pour le coup, est totalement adossé au quinquennat. Je rappelle que les 11 milliards de hausse d'impôts faites par la droite, c'est l'issue du plan qu'on appelle plan Fillon de 2011. Bon. Mais je peux le dire de la même manière de tous les Barouins, je peux vous les citer tous, mais tous ces gens-là, ils avaient déserté. Bon.
Pourquoi ils sont revenus, comment, par reine de Juppé?
Mais pas du tout, ils sont revenus parce
ils ont cru qu'ils étaient bon cheval.
Bien sûr, c'est la du gain, c'est sympathique d'ailleurs. Bon, enfin à cette époque-là où il était donné battu, tout le monde peut témoigner et Dieu sait si ça s'était observé à l'époque que moi j'avais fait absolument ce que je pouvais du point de vue politique pour aller dans les réunions publiques dans toute la France pour défendre sa candidature, ce que je redoutais l'arrivée de la gauche. Et de ce point de vue, malheureusement, les faits m'ont donné raison car c'est un désastre le quinquennat de François Hollande, un désastre.
Mais comme disait Frédéric. Bon, il y a eu un envoûtement Sarkozy dont vous avez été victime.
Non, aucun envoûtement. J'ai jamais été envoûté de ma vie. Non, je vous mets très à l'aise. Il y a rien ni de sacré, ni de surnaturel, ni encore moins de mystique. Non, le seul sujet pour moi, c'est l'intérêt supérieur
d'accord.
du pays. Bon, la perspective de voir la gauche au pouvoir était une perspective qui, évidemment, était très préoccupante.
Je veux bien
déjà
vous entendre. Bon, vous vous êtes fait quand même, tout de même, là, ces dernières semaines, une santé sur le dos de Nicolas Sarkozy. En l'attaquant, et visiblement vous incarnez le tout sauf Sarkozy. Et certains disent c'est la revanche du serpent à plumes. C'est plus, parce que vous savez pertinemment que vous n'allez pas gagner cette élection, c'est plus par revanche, par vengeance que...
Non, d'abord, je vous dis tout de suite, je vous ai laissé finir votre phrase, mais enfin, il est très clair qu'il n'y a rien de tout ça dans ce que j'ai en
tête. C'est
pas vrai. Bon, non, j'ai des divergences de fond avec lui. Bon, je les ai, comme quelqu'un qui a beaucoup espéré en lui il y a 10 ans.
C'est plus que ça, il vous a laissé tomber. Non,
écoutez, arrêtez. On n'est pas dans une. Il y a pas d'affect dans tout ça.
Non, mais vous n'avez pas l'affaire Big Malion en travers de la gorge quand même.
Non, mais attendez, ça c'est autre chose. C'est autre chose.
Enfin,
non, mais
ça.
Attendez, je répète, il n'y a pas d'affect dans tout cela. Oui. Bon, il n'y en a pas chez lui, il n'y en a pas chez moi. Par rapport à notre relation, j'en ai dans la vie, mais pas vis-à-vis de lui ni lui vis-à-vis de moi. La question, c'est le service du pays. Bon, je considère qu'il y a 10 ans, il incarnait cette espérance. Que cette espérance, elle a été déçue très tôt, puisque très vite, avec l'ouverture à gauche, les ministres socialistes, ça a été l'inverse de ce qu'on voulait. Bon, il n'en reste pas moins qu'en 2011-2012, comme je vous l'ai dit, je me suis engagé pour éviter que la gauche arrive au pouvoir à ses côtés, en espérant de tout cœur qu'il l'emporte. Il ne l'a pas, il a malheureusement été battu, et avec lui tous ceux qui étaient à ses côtés. Le quinquennat des socialistes a été l'occasion pour moi de théoriser la droite décomplexée. C'est-à-dire cette droite qui, justement, n'était pas une droite populiste, n'était pas une droite extrémiste, mais une droite qui devait faire ce pour quoi on avait été élu. Et donc, rien à voir, et là, je le revois aujourd'hui, refaire exactement les mêmes méthodes de promesses qui ne lui permettront pas d'être... Et je le dis aux Français qui nous écoutent, bien sûr qu'il peut y avoir une fidélité
sarkozyste. Alors, pour voter qui, alors ?
Ah bah, le plus possible pour moi.
Oui. Très bien. Et entre les deux tours, si.
Écoutez, imaginez que je l'emporte. Vous vous rendez compte comme
vous. Vous êtes à 1%, là, on peut voir les.
Ça dépend parfois 3%.
C'est pas mal.
Sur votre vision de la droite, Jean-François Copé. Donc, il y a la décomplexée, c'est la vôtre.
Oui.
Il y a la populiste, c'est Trump et un peu Sarkozy, vous nous avez dit. Et la complexée, c'est qui, alors?
Ah, c'est la droite plus tiède.
Oui, mais c'est qui?
Les autres.
Donc, le maire, Fillon, bah,
bien
NKM.
Sûr. Bah, bien sûr, moi je veux dire, quand on dit Fillon.
Ils sont complexés, ils n'assument pas d'être de droite.
Prenons l'exemple de François Fillon. Écoutez, François Fillon, il a été gaulliste de gauche pendant toute sa vie politique. Il est devenu thatchérien il y a un an et demi. Bon, il y a un petit problème. Je vous rappelle quand même que c'est lui qui a augmenté les SMIC, qui a aligné les SMIC sur le haut, hein, aggravant le coût du travail, et qu'il a fait les 11 milliards de hausse d'impôts dont j'ai parlé tout à l'heure, avec par exemple, c'est la droite qui l'a fait, le doublement de la durée des plus-values de 15 à 30 ans pour les résidents secondaires.
Il aurait fallu faire la TVA sociale plus tôt ?
Ben bien sûr, oui. Évidemment, moi je la défendais depuis des années. Oui, c'est pour ça que, encore une fois, on peut me reprocher plein de choses, sauf ma constance. Qu'est-ce que je leur reproche, d'ailleurs c'est un mot que j'ai utilisé dans le débat, c'est leur versatilité, c'est leur côté velléitaire, inconstant. On change d'avis en fonction du prochain sondage. On ne peut plus gouverner le pays comme cela. Ce qui compte, ce n'est pas les sondages, ce qui compte, c'est le résultat à la fin du quinquennat.
Alors, pour finir, vous avez dit que vous en aviez beaucoup bavé. Quelle est votre définition depuis un an ou deux de la nature humaine ?
Brièvement.
Oh, la définition de la nature humaine, ce serait très long.
Selon
vous
ce
me demandez
vous avez
d'être
vécu.
Bref. La seule chose que je puisse dire, c'est que la politique, c'est un peu comme le reste des relations humaines, avec les projecteurs en plus. Donc, ceux qui sont solides, et ceux qui sont courageux, ceux qui sont fragiles, et ceux qui sont tordus, sont tordus.
Merci. C'est la fin de cette émission. Merci à Pauline Hellmann et à Audrey Yatoni. Mardi Politique revient mardi prochain, Rosine.
Absolument, mardi prochain, avec François Rebsamen, ancien ministre du Travail de François. Graphisme.